Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir et bienvenue. L'invité de C'est dans l'air, c'est vous ce soir. Patrice Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique. Avec vous, on va revenir sur l'événement de la journée. Il y avait la famille, bien sûr, le chef de l'État, des responsables politiques européens. Tous ont rendu hommage aux Invalides, à Jacques Delors, l'ancien ministre, ancien président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Vous l'avez connu, vous l'aviez côtoyé. En ce jour d'hommage, quels souvenirs personnels reviennent à la fois de l'homme et du politique ?
Alors l'homme, je l'ai connu au début des années 70, quand il était au cabinet. C'était le premier conseiller social d'un Premier ministre de la Ve République. C'est le Premier ministre de Jacques Chaban-Delmas, qui était chef du gouvernement de Georges Pompidou, qui venait d'être élu. Et je connaissais bien Chaban-Delmas, qui m'avait dit il y a un homme formidable dans mon cabinet. Et qui s'occupe des affaires sociales, je vais essayer de vous organiser ça. J'étais un jeune journaliste économique. Et il m'a dit, je vous organise ça. Il a fait un café avec lui. C'était très sympa. Et c'est extrêmement impressionné. Personne ne le connaissait à ce moment-là.
Et il vous a impressionné.
Oui, il avait quelque chose dans le regard de très impressionnant. Des yeux bleus absolument magnifiques, transparents. On a l'impression qu'il sondait les
âmes.
Les cœurs et les âmes. Une espèce de transcendance, c'était, j'étais très impressionné. Et puis après, je l'ai revu tout au long de son parcours politique. Il avait deux caractéristiques qui peuvent être considérées comme très différentes, mais en réalité, ça se combinait très bien. C'était une incroyable humilité.
Ouais. Et je vais citer, si vous le permettez.
Il s'était fait tout seul. Hein. Il n'avait pas fait l'ENA, il n'avait pas fait Polytechnique. Il le disait souvent, d'ailleurs. Il disait, moi qui n'ai pas fait l'ENA ni Polytechnique.
C'était une fierté ou ça l'embêtait un peu ?
Non, c'était une fierté. C'était une fierté. Mais il était aussi fier quand sa fille réussit l'ENA. Et puis, il y avait en même temps, on sentait le caractère. Alors, ceux qui ont travaillé avec lui, ce qui n'a pas été mon cas, vous diront qu'il avait mauvais caractère. Oui. Il était connu pour des colères homériques. Et puis, quand il y avait des arbitrages à rendre, il était quand même très, très sur la brèche et menaçant de temps en temps de démissionner. En réalité, on lui prêtait beaucoup de démissions, mais il a avoué lui-même qu'il avait menacé de démissionner 3 fois auprès de François Mitterrand. Mais il a joué un rôle absolument majeur quand il y a eu le grand débat de 1983, où François Mitterrand et son gouvernement, avec Pierre Mauroy et Jacques Delors, il y a eu un débat pour savoir si la France restait dans le système, pour faire simple, dans le système monétaire européen, ou prenait ses distances. Oui. C'était un débat absolument majeur qui a engagé les 40 et les 50 ans. On vit toujours dans cet arbitrage-là de François Mitterrand, Pierre Mauroy et Jacques Delors, de rester dans le système monétaire européen. Et ensuite, dans la foulée, quand il est devenu président de la Commission, l'acte unique, Maastricht, l'euro. Jacques Delors n'est pas le seul à avoir inventé ou créé l'euro. L'idée de monnaie unique, elle venait de Giscard avec Helmut Schmidt, etc. Mais l'artisan, c'était lui.
C'est ça son héritage. Il y a un mot qu'on entend beaucoup ces derniers jours et depuis l'annonce de son décès, c'est son héritage européen. Est-ce que c'est ça pour vous, ce que vous avez cité, c'est l'euro, par exemple?
Alors, l'héritage, c'est l'euro. L'héritage, c'est une vision de l'Europe. Mais je ne sais pas d'ailleurs si on y reviendra. Mais les dernières années, il était assez inquiet sur
l'évolution
de l'Union européenne et notamment du rythme de l'élargissement de l'Europe. C'est aussi la méthode Delors qui est une obsession. Et moi, quand il m'arrivait de lui en parler, quand il était ministre ou président de la Commission de Bruxelles, son obsession, c'était la négociation, le dialogue, le compromis. Il disait, on peut pas faire de grandes choses s'il n'y a pas de compromis, si on ne fait pas un pas vers l'autre. Et c'était systématique chez lui. Et même quand il y avait le fameux triangle au moment de la réunification de l'Allemagne après la chute du mur, Mitterrand, Kohl, Delors, de temps en temps, c'était un peu rude, hein, entre la France et l'Allemagne. Mitterrand n'était pas forcément un fanat absolu. Ça ne correspondait pas à ses codes historiques de la réunification allemande. Mmh. Et il a joué ce rôle d'intermédiaire. Et il disait à Mitterrand, mais parlez à Kohl. Et il disait à Kohl, avec qui il s'entendait très bien, parlez au président. Et la méthode Delors, c'est aussi dans l'héritage. Mmh.
Oui, Hubert Védrine, pardon, ce matin, ancien ministre des Affaires étrangères, saluait donc cet héritage aussi intellectuel de Jacques Delors. Mais il disait, on ne peut pas transposer le Jacques Delors d'une Europe à 10 à la situation actuelle, à 27 et peut-être plus. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien entendu. En même temps, sur l'élargissement, il disait on ne peut pas, après la chute du mur et la réunification de l'Allemagne, c'est inimaginable de trop repousser l'entrée des pays de l'Europe de l'Est. Mmh. Voilà. Et après, il a considéré que ça allait trop vite et que les perspectives à venir, éventuellement, était également trop rapide. Il y a ce mot de pause, alors qu'il a utilisé quand il était ministre sur la pause sur les réformes, parce qu'il trouvait que le gouvernement Mauroy et Mitterrand avaient dépensé trop d'argent, étaient allés trop vite dans la mise en œuvre des mesures sociales du programme commun après 81. Et donc il a été l'artisan de cette pause et puis de ce changement de stratégie économique. Mais il était aussi le penseur intellectuellement des pauses sur l'évolution de l'Union européenne quand il considérait que ça allait trop vite. Il était à la fois ce qu'on appelle proactif et puis en même temps un homme de recul et de réflexion. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron ce matin parlait de la vision de Jacques Delors, il a une vision de l'Europe qui n'était pas du tout idéologue, c'était une vision très ambitieuse, mais très pragmatique.
Mmh. Vous évoquez ces inquiétudes. On va écouter Jacques Delors lui-même, au soir de sa vie, déçu par le manque de solidarité au moment de la crise Covid.
Il y a avant tout un manque d'état d'esprit. J'allais dire, mais on me dira que je suis catho, un manque d'âme. Et c'est par moments, l'âme revient et ça a permis pendant mes 10 ans d'obtenir des avancées considérables. Mais l'âme n'est pas toujours là.
Je vais vous citer 3 phrases de Jacques Delors. Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'Europe. En Europe, il faut le pompier, mais aussi l'architecte. Et on ne tombe pas amoureux d'un marché unique. Est-ce que ces phrases sont toujours d'actualité aujourd'hui ?
Elles sont d'actualité dans les principes, dans la mise en œuvre. Beaucoup de temps s'est écoulé. Mais le mot d'âme qu'il a prononcé 2 fois dans cet extrait de documentaire, pour lui, c'est très important. Parce que c'était un homme, on en parle peu, c'est des sujets dont on parle peu à propos des dirigeants politiques, mais qui était extrêmement croyant, qui avait commencé avec le syndicalisme chrétien, etc. Et c'était une lignée, il y croyait vraiment. C'est un homme qui avait la foi et qui en parlait avec beaucoup de pudeur, mais ça se ressentait quand on parlait avec lui.
On revient à l'hommage ce matin. Parmi les invités figurait le Premier ministre hongrois, nationaliste Viktor Orban, pas franchement artisan de la construction européenne. Est-ce qu'il faut y voir une main tendue ? Il y avait un message derrière cette présence ?
Je pense que ça l'aurait peut-être abusé, parce qu'il aimait bien réunir les gens qui n'étaient pas d'accord entre eux. Donc là, ce matin, effectivement, entre Orban d'un côté, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen de l'autre, ou le président allemand, effectivement, il y avait des gens extrêmement différents dans leur idée, dans leur vision de l'Europe. Mais je répète, parce que je crois que c'est absolument essentiel, c'était tout sauf un idéologue. Donc, bien entendu, il combattait d'ailleurs, il n'aimait pas du tout, il l'a dit encore dans ses dernières déclarations, ce qui se passait en Hongrie ou ce qui s'était passé dans d'autres pays européens qui ne respectaient pas un certain nombre de règles démocratiques. Mais en même temps, il savait parfaitement qu'en élargissant l'Europe, il fallait faire des compromis à tout moment. Ce mot de compromis, vous savez, il a inventé sous Chaban, donc ça fait 53 ans, il a inventé la politique contractuelle. Et il disait toujours, quand il y avait des grèves, des mouvements sociaux, il disait toujours aux syndicats, mais parlez au patron. Et il disait au patron, allez parler aux syndicats. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, bon, je vous réunirai, puis on essaiera de trouver une solution. Mais c'est le credo de Delors, c'était ça. Et il l'a appliqué pour l'Europe, c'était la même chose.
Il y avait un hommage ce matin, il y avait aussi un message d'Emmanuel Macron. On est à 6 mois des élections européennes. Il s'est inscrit dans les pas de Jacques Delors. Il a parlé de passage de relais. Je crois qu'il ne s'était jamais rencontré, Jacques Delors. Il en pensait quoi d'Emmanuel Macron ?
Alors, de ce qu'on peut savoir, il est j'étais tout à fait heureux de l'ambition européenne du président de la République, de quelques grands discours qu'il avait faits, comme celui de la Sorbonne ou le discours d'Athènes. En revanche, il était assez critique, voire assez sévère, sur la verticalité du pouvoir, alors qu'il y a une origine dans les institutions de la Ve République, et notamment depuis l'élection du président au suffrage universel. Mais il n'aimait pas la verticalité du pouvoir. Il aimait partager le pouvoir. Mmh. Et le dialogue, c'est aussi partager le pouvoir. Voilà. Et on ne peut pas dire que Emmanuel Macron soit farouche partisan du partage du pouvoir.
Merci beaucoup, Patrice Diallo, d'être venu témoigner aujourd'hui. Je signale la parution le 17 janvier de votre livre Le chat et le renard, président et Premier ministre, deux ou trois choses que je sais
de. Je parle de Jacques Delors.
Voilà, j'allais dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour C'est dans l'air, consacré ce soir au conflit entre la Russie et l'Ukraine. À tout de suite.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.